Aujourd'hui, je vous présente le professeur Jean-Yves Devaux, qui nous a fait l'amitié de venir présenter un de ses domaines de spécialité, les médecines nucléaires. Il est né en 49, il est docteur en médecine, docteur d'état en biologie humaine. Il est professeur en biophysique à l'Université Paris 5 René Descartes et en même temps praticien hospitalier à Cochin et spécialiste de médecine nucléaire. Je vais lui passer tout de suite la parole pour sa conférence. Merci.
Monsieur Michaud, merci. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vais donc vous faire cet exposé. Je voudrais remercier bien sûr les organisateurs de Mission 2000 de m'avoir invité à faire cette conférence et vous présenter les médecines nucléaires. Je vais jouer un petit peu sur ce singulier, ce pluriel, vous allez voir tout au long de cet exposé. Alors, la médecine nucléaire, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas très bien finalement. C'est une spécialité médicale qui existe depuis une trentaine d'années maintenant dans le monde entier, au même titre que la cardiologie, la rhumatologie, l'ostéologie. Et vous connaissez également la radiologie, la radiothérapie, et finalement, les médecines nucléaires, c'est beaucoup plus proche de ces deux spécialités. Et d'ailleurs, elle allie les deux caractéristiques propres de la radiologie et de la radiothérapie, puisque l'objectif, c'est à la fois diagnostique et thérapeutique, nous allons le voir. Mais ce qui intéresse le médecin nucléaire vis-à-vis de l'organisme, c'est son fonctionnement. Et on peut véritablement dire que la médecine nucléaire est une médecine fonctionnelle, une médecine d'imagerie fonctionnelle, de traitement par l'intermédiaire de la fonction de l'organisme, et non pas une étude purement anatomique. Si l'on s'intéresse, par exemple, à l'efficacité de la pompe cardiaque, ça n'est bien évidemment pas l'anatomie du cœur qui est intéressante en soi, en tout cas pour les médecins nucléaires. Et plus intéressant, c'est la fonction de pompe, c'est-à-dire à partir du moment l'analyse du mouvement où on peut la suivre, aussi bien par exemple au niveau du ventricule gauche, généralement le plus souvent impliqué dans la pathologie cardiaque, qu'éventuellement le ventricule droit, que nous pouvons explorer au même titre que le ventricule gauche. Quelques définitions pour que vous ayez un petit peu une idée du monde dans lequel nous évoluons. La médecine nucléaire, c'est l'utilisation de radioéléments en source non scellée, et ceci bien sûr dans un but médical. Alors, quelques éléments d'appréciation. Radioéléments, ce sont donc, je reviendrai sur ce point dans quelques instants, des éléments qui sont radioactifs, qui émettent des rayonnements. En source non scellée, c'est-à-dire que contrairement à certaines techniques de radiothérapie externe, qui utilisent des sources dans un appareil et seul le rayonnement atteint l'organisme, là, la source radioactive est administrée directement au patient, donc au contact intime de son organisme. Quels sont les moyens que nous avons pour appliquer nos techniques? Eh bien, deux types de rayonnement, les rayons gamma qui nous servent pour le diagnostic. Il se décline en trois grandes applications, la scintigraphie ou imagerie de médecine nucléaire, la radio-immunologie qui est donc l'application à des dosages dans des échantillons biologiques, et nous verrons quelque chose d'un petit peu particulier, l'utilisation de la médecine nucléaire en termes de détection péropératoire au cours d'une intervention chirurgicale. L'imagerie externe, le principe en est fort simple. On injecte donc cette substance au patient, cette substance se répartit dans l'ensemble de l'organisme et selon la molécule qui est administrée, elle ira qui au cerveau, qui dans le foie, qui dans les reins, là en l'occurrence au niveau du cœur. Les rayonnements gamma qui sont émis à partir du cœur ici vont être reçus par un détecteur et traduits en images. Le détecteur est bien évidemment externe au corps. Mais on peut également utiliser les rayons bêta pour le traitement. C'est la radiothérapie interne, le pendant, en quelque sorte, de la radiothérapie externe que vous connaissez tout au moins sous le nom de bombe au cobalt. Dans ce cas, l'administration de la substance se fait de la même façon par voie intraveineuse, mais la distribution de cette radioactivité se fait au niveau cellulaire et la destruction attendue par ces éléments se fait à courte distance, habituellement de l'ordre du millimètre. Alors, la grande question, c'est pourquoi appelle-t-on cette médecine médecine nucléaire ? Eh bien, essentiellement parce que l'origine des rayonnements que nous utilisons, les rayonnements gamma, les rayonnements bêta, dont je viens de vous parler, se situe à l'intérieur du noyau des atomes, d'où le terme de médecine nucléaire. C'est une appellation tout à fait universelle. Dans tous les pays du monde, la médecine nucléaire s'appelle de cette façon, même si elle est malheureusement assimilée à d'autres applications peut-être moins pacifiques du nucléaire. Qu'est-ce qu'un radioélément ? Eh bien, un radioélément n'est que la forme radioactive, une des formes radioactives d'un élément, d'un corps naturel, tel que l'aluminium, le cuivre, le plomb, toute substance quotidienne, habituelle. Nous allons utiliser des substances un peu particulières, mais pas tant que ça. L'iode, vous connaissez. L'indium, c'est un petit peu plus rare. Le technétium, c'est une substance qui est entièrement artificielle dans le sens où c'est l'un des rares éléments de la table de classification qui n'existe pas dans la nature, car toutes les formes de technétium sont radioactives et donc ne sont pas restées présentes dans la couche terrestre. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que l'activité que nous administrons pour faire nos examens est faible et surtout parfaitement connue et calibrée. Et ceci d'autant plus que la mesure de la radioactivité est quelque chose de facile et au-delà de la facilité avec laquelle on peut mesurer la radioactivité, c'est surtout le fait que nos instruments sont extrêmement sensibles. La mesure de la radioactivité est probablement la mesure physique la plus sensible qu'il soit, c'est-à-dire que l'on est capable, théoriquement, de mettre en évidence une seule molécule, un seul atome radioactif dans de bonnes conditions. Et cela, pas beaucoup de mesures physiques sont capables de descendre aussi bas. Alors, bien évidemment, la médecine nucléaire, le mot nucléaire, continue à faire peur. Et j'en veux pour preuve un dessin que j'ai retrouvé dans une revue, un hebdomadaire qui date maintenant de quelques années, c'était en 1983, où, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais le dessinateur a jugé utile de présenter un service de médecine nucléaire avec un pauvre sujet qui en sortirait, environné de plein de gens, à qui, par un haut-parleur, on lui signale qu'il n'a pas à s'inquiéter parce que c'est un contrôle de routine, avec des tas de choses inquiétantes, des instruments. Bon. Bah, la réalité, un examen de routine, par exemple, d'accord, l'appareil est un peu impressionnant, mais finalement, cette petite fille n'a pas l'air si impressionnée que ça, et puis son papa, qui assiste à l'examen, a l'air également très serein. Donc finalement, je pense que dans l'imaginaire des gens, il y a beaucoup de déformations et beaucoup de choses à redresser. Modestement, j'essaierai d'y contribuer aujourd'hui. Bien évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. L'irradiation médicale, ça existe. Et nous avons un moyen de mesurer ces risques. C'est ce qu'on appelle l'unité, c'est le sievert. Alors, j'ai rassemblé ici quelques éléments. On pourrait en faire une liste extrêmement longue. Mais parmi les examens les plus courants, vous voyez 0,3 millisievert pour une radiographie pulmonaire, 0,25 millisievert pour une scintigraphie thyroïdienne, donc l'examen de médecine nucléaire assez courant, scintigraphie osseuse 4 millisievert, un scanner abdominal, chose que vous connaissez bien également, 15 millisievert. Alors, ces valeurs, vous allez me dire, ça correspond à quoi ? Alors, sachez que les personnels spécialisés, c'est-à-dire non seulement les gens qui travaillent dans des centrales nucléaires, mais tous les gens qui ont de près ou de loin affaire avec le rayonnement, que ce soit les radiologues ou les médecins nucléaires tels que moi, nous sommes dans une catégorie socio-professionnelle assez, un peu à part, pour laquelle la norme a été fixée, je dis bien la norme, pas les limites. La norme est de 50 millisievert par an. C'est-à-dire que, cela ne veut pas dire que l'on ne prend pas de précautions, mais on considère que si nous sommes irradiés à moins de 50 millisievert par an, eh bien, il n'y a pas de quoi déclencher un plan hors sec. Donc, règle générale, on est nettement en dessous de cela parce qu'on prend des précautions supplémentaires, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat tant qu'on n'atteint pas ce stade. Et d'ailleurs, il n'y a aucun effet observable tant que l'on reste en dessous de 200 millisieverts. Et encore, ces 200 millisieverts, faut-il les recevoir en une seule fois et non pas par l'accumulation au cours du temps sur plusieurs mois de la même dose. Là encore, à titre de comparaison, sachez que l'irradiation naturelle moyenne en France est de 2,5 millisieverts par an. C'est-à-dire que ça, c'est ce que vous recevez en fait de la radioactivité qui est présente dans le sol, la radioactivité qui est présente dans le ciel, que vous recevez du cosmos, mais également la radioactivité que vous portez en vous, car vous avez naturellement, nous avons tous naturellement, un certain nombre de corps radioactifs, le potassium-40 en particulier, en quantité, non pas importante, mais suffisante pour contribuer à ces 2,5 millisieverts par an. Je vous ai dit irradiation moyenne, puisque certaines régions, on le sait, la Bretagne, l'Auvergne, ont des chiffres un peu plus élevés, de l'ordre de 2, 3, 4 fois plus élevés. Il existe même, dans le monde, sur Terre, des zones qui sont beaucoup, beaucoup plus irradiantes, en quelque sorte, naturellement, certains plateaux d'Iran, certaines plages du Brésil, où l'activité présente et l'irradiation qui en résulte est de l'ordre de plusieurs dizaines de fois cette irradiation moyenne en France, sans pour autant que les populations locales n'aient développé quelque pathologie que ce soit. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, et bien évidemment, notre souci est aussi, en termes de prévention de ce risque, fut-il minime. La radioprotection, ce sont d'abord des procédures réglementaires parfaitement codifiées et que nous appliquons, mais je dirais qu'au-delà de cet aspect réglementaire, de cet aspect contraignant d'utilisation de la radioactivité, tous les gens, en tout cas, je ne parlerai ici que des personnels médicaux et paramédicaux qui sont dans les services de médecine nucléaire, ont une culture de la radioprotection. C'est-à-dire que nous apprenons à vivre avec, nous apprenons à ne pas faire de bêtises avec la radioactivité, de telle façon que le déroulement des examens se fasse sereinement et sans aucun danger. Tout cela, bien évidemment, c'est par les moyens, par l'intermédiaire d'un contrôle de qualité extrêmement serré qui nous permet de savoir à tout moment ce qui se passe et surtout donc ce vocable un petit peu nouveau mais qui commence à apparaître dans les médias, la traçabilité. La possibilité de suivre à tout moment, depuis le moment où nous recevons la radioactivité dans le laboratoire, nous l'administrons et nous en recueillons les déchets qui sont traités purement en hospitalier et qui ne ressortent pas à l'extérieur, eh bien nous sommes capables à tout moment de dire ce qu'il y a, combien il y a et ce que ça va devenir. N'oublions pas également qu'en termes de risque d'utilisation en médecine nucléaire ou en radiologie, hein, les deux disciplines sont exactement à mettre sur le même pied sur ce plan, c'est l'aspect décision médicale. C'est que pour toute administration de médicaments, et quand vous achetez un médicament, vous savez très bien que dans la notice, il y a toujours des effets secondaires, il y a des précautions à prendre, et bien c'est exactement la même chose avec les rayonnements. Il faut toujours peser le risque encouru par rapport aux bénéfices attendus. Si le pronostic vital est en jeu ou un handicap majeur, il est évident que le risque de n'importe quelle thérapeutique, utiliserait-elle ou non les rayonnements, est négligeable par rapport à diagnostiquer la maladie ou à la traiter. La loi renforce encore cela puisque la France va ratifier le 13 mai prochain, donc dans un mois et demi environ, deux mois, une directive européenne qui fait ce qu'on appelle la directive patient et qui impose deux notions très précises. La justification. La justification, ça veut dire qu'on ne doit pas pratiquer d'actes utilisant les rayonnements, je vous dis bien encore une fois, radio et médecine nucléaire, si ça n'est pas justifié, si ça n'est pas médicalement justifié. Et l'autre mot, c'est optimisation. Ça n'est pas minimisation. Il n'est pas question, là, de diminuer à tout prix les doses administrées aux patients. On ne doit le faire que si l'on est sûr de pouvoir répondre à la question que l'on nous a posée. Si on injecte trop peu d'activité, si le cliché radiologique est pris avec un réglage trop faible, eh bien, vous n'aurez pas un bon renseignement, vous ne rendrez pas service à votre patient, et ça sera, à ce moment-là, un mauvais examen. Enfin, dernier point, pour prévenir le risque, encore faut-il que les gens soient prévenus, et l'information du patient est également une obligation légale que nous avons et que nous respectons. Alors, le diagnostic. Le diagnostic, c'est la forme donc d'utilisation de la médecine nucléaire, peut-être la plus connue à l'heure actuelle. La scintigraphie, c'est au départ l'administration d'un radiopharmaceutique. Et vous voyez que dans ce cas très précis, on va utiliser un cache-seringue, des gants pour se protéger de la contamination et un dosimètre pour tester au niveau du personnel l'irradiation que nous recevons nous-mêmes du fait de la réalisation des examens. L'administration de ce produit, c'est donc ce radiopharmaceutique, ce médicament qui est injecté au patient, qui va se distribuer dans le corps et qui va se distribuer de la même façon que la molécule correspondante non radioactive l'aurait fait. Et ce qui va nous intéresser, c'est avec la caméra à scintillation, ici vous avez un détecteur supérieur, un détecteur inférieur par rapport au lit qui est ici, vous allez disposer le patient sur cette table d'examen, faire avancer la table d'examen jusqu'ici, la caméra va enregistrer les images. Contrairement à un appareil de radio, cet appareil n'émet absolument pas de rayonnement. La source de rayonnement est déjà dans le patient. Donc, globalement, un examen scintigraphique est un examen simple. C'est une injection intraveineuse la plupart du temps. Donc, plus de 90% des examens de médecine nucléaire, le produit est administré par une simple intraveineuse. Il n'y a aucun effet secondaire. Le patient peut vraiment faire ce qu'il veut, sauf conditions très particulières d'avoir à s'hydrater, à prendre tel ou tel médicament. L'attente est variable. Parfois, l'injection se fait sous la caméra. Dans d'autres cas, il faut attendre quelques minutes, parfois même jusqu'à une semaine. Au bout de ce temps, eh bien, on enregistre les images. À l'issue de cette phase qui va durer, selon les examens, entre 10, 15, 20 minutes, eh bien, il y aura l'interprétation médicale et la communication des résultats, comme dans n'importe quel examen complémentaire d'imagerie. Quels sont les domaines d'application de la scintigraphie? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, ils sont extrêmement variés. Sachez que nous avons à peu près à notre disposition, en courant, en routine, à peu près une soixantaine de molécules différentes que nous pouvons utiliser, ce qui, globalement, met autour de 200 ou 250 le nombre de maladies que nous pouvons explorer avec ce type d'examen. On peut, et ça c'est la particularité de la médecine nucléaire, raisonner en termes d'organes, donc thyroïde, poumons ou os, mais également, puisqu'il s'agit d'une imagerie fonctionnelle, de rechercher une ventilation. Alors là, vous me direz, la ventilation, c'est essentiellement les poumons, le transit, le métabolisme d'une façon générale, la perfusion ou irrigation sanguine de tel ou tel organe, ou de telle ou telle région de l'organisme. Mais ce qui m'a fait encore plus la spécificité de la médecine nucléaire, c'est d'avoir des moyens de mettre en évidence une pathologie particulière, telle que l'inflammation, l'infection, une fracture, des tumeurs bénignes ou cancéreuses, et ceci indépendamment de l'endroit où cela se situe dans l'organisme. Donc il n'y a pas de liaison propre par rapport à un organe, c'est on va utiliser cette technique pour véritablement rechercher un élément pathologique présent quelque part. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut l'utiliser? Eh bien, vous avez vu tout à l'heure cette jeune fille qui était sous la caméra. En fait, nous pouvons faire les examens de médecine nucléaire des premiers jours de la vie jusqu'au dernier. Il n'y a qu'une seule contre-indication, et encore est-elle relative, c'est la grossesse. Aucun examen de médecine nucléaire, ni même de radiologie, ne devrait être pratiqué si la femme est enceinte, ou si elle est susceptible de l'être, ce qui impose un certain nombre de précautions, d'interrogatoires, de dosages éventuels à faire. Je reviendrai sur ce point, sur l'aspect contre-indication relative, dans quelques instants. Quelques exemples d'examens. Eh bien, la première application de la médecine nucléaire, large, connue, c'est la scintigraphie thyroïdienne, cette glande que nous avons à la base du cou. Ici, un examen normal où vous voyez les deux lobes thyroïdiens, le lobe droit, le lobe gauche, avec une répartition de la radioactivité, avec une traduction colorée. Vous verrez un certain nombre d'images avec des gammes de couleurs différentes. C'est un petit peu la spécificité de la médecine nucléaire, puisque nous recherchons beaucoup plus que la précision anatomique, l'aspect fonctionnel, et la couleur nous aide à comprendre tel mécanisme. Ici, plus c'est blanc, rouge, on va passer donc du noir, bleu, vert, jaune, rouge et blanc, en termes de quantité d'activité. Donc il y a plus d'activité au centre de la thyroïde que sur les côtés, simplement parce que la paroi est un petit peu plus mince. Du côté pathologique, vous pourriez penser que ce lobe droit, pratiquement pas visible, est le lobe pathologique par rapport à ce lobe gauche, certes un peu plus gros. Eh bien, détrompez-vous. Ça serait si on avait une analyse uniquement anatomique. Or, l'analyse fonctionnelle nous dit quoi ? Cette analyse fonctionnelle nous dit qu'en fait, cette zone de la thyroïde, ici, le lobe gauche, fixe beaucoup trop l'activité, et en fait, c'est totalement autonomisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus régulé par les mécanismes normaux de régulation de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Résultat, eh bien, le lobe droit s'est complètement masqué, il n'y a plus d'activité fonctionnelle de fabrication d'hormones thyroïdiennes dans le lobe droit, et ça n'est qu'en retirant le lobe gauche pathologique que nous retrouverons un fonctionnement normal de la glande. Scintigraphie des poumons. Ici, vous avez, en termes de répartition, donc face antérieure, face postérieure, vous avez une encoche ici, que l'on retrouve très bien visible sur cette oblique postérieure gauche qui a été faite. On peut le distinguer également un petit peu ici et également là. Eh bien, ceci signe de façon absolument évidente une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire, c'est un caillot de sang qui est venu boucher une des branches de l'artère pulmonaire, et cette affection a un pronostic effroyable quand elle n'est pas traitée et à temps et qu'elle est négligée. Et c'est la raison en particulier, c'est l'un des rares examens pour lequel la contre-indication de grossesse dont je vous parlais tout à l'heure n'est que relative, puisqu'on estime que si le risque d'embolie pulmonaire est avéré cliniquement et que nous pouvons le prouver comme ceci, à ce moment-là, l'irradiation que le fœtus pourrait éventuellement recevoir de ce fait est négligeable par rapport à la mise en jeu du pronostic vital de la mère. Scintigraphie du squelette, l'examen le plus pratiqué dans tous les services de médecine nucléaire de France et du monde entier. Un examen normal, vous voyez la répartition. Alors, que signe cette répartition du traceur ? Essentiellement, une activité métabolique de synthèse osseuse. En permanence, nous refaisons nos os au fur et à mesure de la vie, et nous ne faisons que traduire l'activité métabolique, les zones, bien sûr, d'épaisseur et d'activité différentes. Sur cet examen, eh bien, vous pouvez voir qu'au niveau du crâne, au niveau de quelques côtes ici, au niveau des vertèbres, au niveau du bassin, au niveau des fémurs, il y a des activités hétérogènes qui se sont accumulées, et ceci traduit malheureusement des métastases, ici d'un cancer bronchopulmonaire. L'avantage de la scintigraphie osseuse, en particulier par rapport à la radio, est que généralement, elle va détecter ce type de manifestation environ un mois en moyenne avant la radio, avant les signes radiologiques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions également la possibilité de mettre en évidence des anomalies de type fonctionnel du corps et non pas simplement anatomique. Eh bien ici, nous avons, en utilisant les polynucléaires, c'est-à-dire certains globules blancs du patient, en les marquant, en les réinjectant, nous avons pu mettre en évidence une fixation tout à fait anormale au niveau du gros intestin, du côlon gauche ici, et cela signe la rectocolite hémorragique. Alors, le diagnostic n'est pas indispensable, ne peut pas être fait uniquement par la médecine nucléaire. C'est un diagnostic clinique au départ, la rectocolite hémorragique. Ce qui est intéressant, c'est d'en juger le degré d'extension et surtout la sévérité. Quels sont les développements attendus de la médecine nucléaire ? Eh bien, en fait, tout nouvel examen suppose la mise au point de nouvelles molécules radiopharmaceutiques. Et sur ce plan, il n'y a pas de limite théorique. Le génie biologique nous a enseigné, nous a donné les moyens d'avoir vraiment maintenant des miracles dans le domaine de la synthèse de nouvelles molécules. Et donc, on peut imaginer que le nombre de molécules organiques intéressantes à explorer dans l'organisme est tel qu'il n'y a pas de limite. Les enjeux actuellement, c'est la mise en évidence des récepteurs membranaires sur des cellules qu'elles soient normales ou pathologiques, afin d'améliorer encore notre connaissance de certaines maladies. L'impératif, quand on veut mettre au point une nouvelle molécule, c'est de ne pas modifier la structure et donc de ne pas modifier le comportement de la molécule dans l'organisme. Si on marque une molécule avec un produit radioactif pour arriver à la suivre de façon externe, il faut bien évidemment lui conserver quand même sa capacité d'aller là où la molécule non marquée serait allée, exactement dans les mêmes conditions physiologiques. Et bien évidemment, quand on pense à cela, on a un petit souci parce que si on veut marquer des molécules sans modifier trop leur structure, l'idéal serait d'utiliser des isotopes radioactifs des molécules elles-mêmes, des atomes eux-mêmes constitutifs des molécules organiques. Vous savez que la plupart des molécules que nous avons dans l'organisme sont constituées de finalement très peu de bris, de très peu d'atomes différents, dont les principaux sont carbone, oxygène, azote. Hydrogène aussi, mais il n'y a pas d'élément utilisable pour nous. Eh bien, nous disposons des radioéléments correspondants au carbone, c'est le carbone 11, à l'oxygène, c'est l'oxygène 15, à l'azote, c'est l'azote 13. Et ces traceurs organiques, cette possibilité de synthétiser des molécules en utilisant des radioéléments constitutifs, ont un inconvénient, c'est qu'ils ont une durée de vie extrêmement brève, de l'ordre de quelques minutes, quelques dizaines de minutes au maximum. Ils doivent donc être produits et utilisés sur place avec des détecteurs spéciaux, parce qu'ils émettent des positons qui ensuite se transforment en rayons gamma, mais il faut des appareils spécifiques. Donc il n'y a actuellement que très très peu, même dans le monde, de machines très sophistiquées, capables de faire ce genre d'expérimentation. Il y a fort heureusement une exception, le fluor 18. Le fluor n'est pas à proprement parler un traceur organique. Le fluor est une molécule, un gaz rare, un halogène, excusez-moi, un halogène qui est très réactif chimiquement et qui peut donc servir à faire des marquages de beaucoup de molécules. L'avantage, c'est que sa durée de vie est de près de 2 heures, ce qui permet de l'utiliser à distance du cyclotron de production. Et nous commençons à avoir, dans pas mal de services maintenant, la possibilité d'avoir de telles livraisons et d'utiliser de telles molécules. Et en particulier, on a pu fixer du fluor sur une molécule extrêmement simple, du glucose, vous savez, le sucre, un des constituants du sucre que nous avons chez nous, partout, et que nous avons entre autres dans l'organisme, sous la forme donc de fluorodéoxyglucose. On a substitué à un oxygène et un hydrogène une molécule de fluor. Et l'avantage de ce FDG, de ce fluorodéoxyglucose, c'est que, outre qu'il peut être utilisé dans l'étude myocardique, l'étude du muscle cardiaque et l'étude cérébrale, on a découvert surtout qu'il avait une très grande affinité pour les cellules cancéreuses. À tel point que c'est devenu l'indication principale à l'heure actuelle de la TEP, de la tomographie par émission de positons. Et les indications en sont potentiellement très larges, même si actuellement il n'y a que 5 indications majeures en France reconnues. Par exemple, dans le cancer du poumon, c'est la possibilité de mettre en évidence cette tumeur. Ici, vous avez le cœur, ici la vessie, ici le cerveau. Donc, cette tumeur ici, ce n'est pas tant l'aspect diagnostique en tant que tel, la localisation, il est évident, fort probable, que ce patient a eu une radiographie pulmonaire et que l'on a vu au niveau du il gauche une image qui n'est pas tout à fait normale. Le problème, c'est que sur une image radiologique, vous ne savez pas dire avec certitude s'il s'agit d'un cancer ou pas. Alors que le fait que le fluorodéoxyglucose se soit accumulé au niveau de cette tumeur signe de façon, pour l'instant, quasi certaine que cette tumeur est bien une tumeur cancéreuse. Dans d'autres affections, type de lymphome, avec une atteinte des ganglions lymphatiques, eh bien, vous avez une accumulation très, très importante au niveau, par exemple, des champs pulmonaires ici, avec d'autres localisations, des métastases secondaires des ganglions. Vous avez, en revanche, ici, les cavités rénales qui sont tout à fait normales avec la vessie ici. Donc, possibilité de faire des diagnostics caractérisés de bénignité ou de malignité de tumeur avec ce nouveau traceur. Ce nouveau traceur permet également de suivre l'évolution. Dans un autre cas de lymphome, ici, vous aviez également une atteinte au niveau médiastinal, c'est-à-dire donc au milieu entre les deux poumons qui sont ici. Le cœur est toujours ici. Et après 3 cures de chimiothérapie, le fait de recommencer l'examen nous a permis de vérifier que la rémission complète était obtenue et que l'on pouvait arrêter la chimiothérapie, qui est généralement assez mal supporté par ses effets secondaires importants, et qu'il n'était pas nécessaire d'aller plus loin, puisqu'il n'y avait plus d'accumulation du traceur. On pouvait donc considérer que le malade était en guérison, au moins temporaire, mais au moins suffisante pour ne pas continuer une thérapeutique agressive. Le diagnostic en médecine nucléaire, à côté de cette imagerie, c'est aussi le dosage dans les échantillons biologiques, c'est aussi la détection préopératoire, comme je vous l'ai dit. Les immunodosages. Le principe, c'est le couple antigène-anticorps. L'avantage de cette technique, c'est sa très grande spécificité. Même si une forme de molécule organique est très proche d'une autre, le principe même d'avoir l'anticorps spécifique de la première molécule permettra de la doser avec une extrême spécificité et une extrême sensibilité, là encore à des concentrations extrêmement faibles. Chaque fois que l'on veut mettre en évidence une substance en très petite quantité dans un liquide biologique, la technique de médecine nucléaire, de radio-immunologie, est la meilleure. Les grandes classes de dosage, eh bien, les hormones, bien sûr, qu'elles viennent de l'hypophyse, de la thyroïde, de l'ovaire, de toutes les autres glandes endocrines, des peptides, des vitamines, plein de substances comme cela, et puis quelque chose que certains d'entre vous, peut-être, ont entendu prononcer, les marqueurs tumoraux, le PSA, qui permet de surveiller l'évolution du cancer de la prostate, la CE, qui permet de contrôler celui du cancer colique. Donc, globalement, ce sont des dosages très spécifiques qui permettent, là encore, de suivre un certain nombre de pathologies, qu'elles soient cancéreuses ou non, d'ailleurs. Je vous ai parlé de la détection péropératoire. Ça, c'est probablement quelque chose dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. La détection péropératoire, c'est utiliser les radioéléments, là encore administrés aux patients, afin d'aider le chirurgien dans sa tâche. Dans un premier temps, repérer la lésion au sein du champ opératoire, et une fois l'ablation de la tumeur, de l'anomalie réalisée, de vérifier que l'ensemble de toute la tumeur a bien été ôtée. Et pour cela, nous avons deux méthodes. Les dosages extemporanés, c'est-à-dire pendant l'intervention. Le chirurgien avait repéré une tumeur parathyroïde, c'est-à-dire une des quatre glandes qui se situe derrière la thyroïde, et qui en sont distinctes et qui sont responsables de la stabilité du calcium dans l'organisme. Il a fait l'ablation de cette tumeur et il a fait faire des dosages, donc pendant l'intervention, le patient était toujours sur la table. Et à plusieurs dosages successifs de la parathormone, l'hormone sécrétée par les parathyroïdes, on voit que les taux restent supérieurs à la zone normale. Le chirurgien a donc recherché une deuxième parathyroïde qui était également tumorale. Il en a fait l'ablation et il a eu la satisfaction de voir que le taux de parathormone s'était normalisé après son ablation, la deuxième tumeur. On peut également utiliser une sonde péropératoire, c'est-à-dire que cette fois-ci, on a véritablement sur le champ opératoire la possibilité de chercher la lésion, de la mettre en évidence et de vérifier qu'on a véritablement bien retiré tout ce qu'il fallait retirer. Le deuxième volet, je dirais, à côté du diagnostic que permet la médecine nucléaire, ce sont les traitements. La radiothérapie interne, c'est-à-dire l'administration de molécules radioactives qui ont comme objectif de détruire les cellules que nous souhaitons détruire. Et pour cela, nous allons utiliser une molécule spécifique qui ira dans la tumeur et seulement dans la tumeur et qui ira détruire très spécifiquement ces cellules. Alors bien sûr, on pense immédiatement aux affections malignes, les tumeurs cancéreuses, le cancer de la thyroïde, mais il y a un certain nombre d'autres cancers qui peuvent être traités par de telles techniques. Mais il y a également des affections bénignes. Tout à l'heure, je vous avais montré la scintigraphie thyroïdienne, ce lobe thyroïdien gauche qui fonctionnait trop, eh bien, ça n'était absolument pas une tumeur cancéreuse. C'est ce qu'on appelle un adénome toxique, une maladie tout à fait bénigne que l'on peut traiter, en particulier en lui donnant, en administrant une dose de radioactivité. Il y a également des inflammations articulaires dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a également l'excès de globules rouges dans la polyglobulie qui peuvent être traités par la radiothérapie interne. Là, tous les exemples que je viens vous donner sont des exemples de guérison. ce que l'on espère en tout cas. Dans un certain nombre de cas, malheureusement, l'évolution de la maladie est telle qu'il n'y a plus que le confort du malade à assurer. Et dans ce cas-là, la médecine nucléaire peut encore nous aider, puisqu'elle peut avoir un rôle palliatif en diminuant, voire en supprimant, les douleurs, en particulier des métastases osseuses de certains cancers. On donne en particulier du strontium et ou du samarium dans les métastases douloureuses du cancer de la prostate. Alors, pour vous montrer un petit peu en quoi l'ensemble de toutes ces différentes facettes des médecines nucléaires, de la médecine nucléaire, pouvait jouer, je vous ai préparé ce dossier médical qui illustre bien la complémentarité de ces différentes techniques. Dans le cas donc d'un cancer papillaire, une forme particulière de cancer de la thyroïde, la scintigraphie a d'abord intervenu en termes diagnostiques. Le cancer ayant été prouvé, la chirurgie a commencé par une thyroïdectomie totale, c'est-à-dire une ablation complète des deux lobes de la thyroïde, avec un curage des aires ganglionnaires adjacentes. Un contrôle a été fait de thyroglobuline, qui est donc une protéine qui est présente uniquement en cas de tumeur, et ce dosage était élevé, ce qui laissait supposer que certaines cellules étaient restées en place après la chirurgie. Il a donc été institué une radiothérapie interne à l'aide d'iode 131 pour essayer de détruire les cellules restantes. Et comme il est habituel dans ce cas, on a refait une scintigraphie post-thérapeutique immédiatement après l'administration de l'iode 131 à l'issue des 5 jours d'hospitalisation en chambre spéciale, parce que là, les doses sont telles que l'on est obligé pour l'environnement de prendre quelques précautions. Et voilà ce qu'a donné la scintigraphie. Elle a trouvé malheureusement la présence de métastases pulmonaires très très importantes ici dans les deux champs pulmonaires et puis surtout un ganglion cervical ici. Eh bien, on a continué à s'occuper de ce malade, bien sûr, avec l'ensemble de l'équipe, et on a proposé une réintervention radioguidée. C'est-à-dire qu'on a proposé d'abord un deuxième traitement de radiothérapie interne pour essayer de régler le problème des métastases pulmonaires. Et puis, comme on savait que le ganglion ne pourrait pas être complètement traité de cette façon-là, on a proposé au chirurgien de céder de la détection préopératoire pour retrouver exactement le ganglion cervical qu'il fallait retirer et vérifier qu'il était le seul à être atteint. Ce qui a été fait, un troisième traitement de radiothérapie interne de sécurité a été proposé. Et à l'issue de ce traitement, on a eu la satisfaction de voir la normalisation du dosage de la thyroglobuline survenir. Et 4 ans plus tard, on a pu faire une scintigraphie de contrôle qui montre la disparition complète des métastases pulmonaires, la disparition complète, mais ça on s'y attendait puisqu'il y avait eu une intervention chirurgicale, du ganglion cervical, et les seuls foyers d'activité étaient les glandes salivaires, ce qui est une accumulation normale de l'iode quand il n'y a pas d'autre endroit où l'iode peut aller. Donc, guérison obtenue complète pour ce malade. Quelle est la situation actuelle en France en termes de médecine nucléaire? Eh bien, il y a 192 services de médecine nucléaire, à peu près répartis en un tiers dans les hôpitaux publics, un tiers dans les centres anticancéreux et un tiers en exercice libéral. 404 gamma-caméras, caméras à scintillation, et environ une soixantaine de chambres pour faire des traitements tels que la radiothérapie interne. Actuellement, en mars 2000, nous n'avons que deux tomographes à émission de positons en utilisation clinique et 3 autres machines en recherche. Nous sommes à peu près 550 spécialistes de médecine nucléaire et nous réalisons un peu plus d'un million d'actes de médecine nucléaire par an, ce qui est, soit dit en passant, par exemple, plus que l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Bien évidemment, la médecine nucléaire, ça suppose une certaine stratégie d'utilisation. Une stratégie diagnostique au départ, que je résumerai en une phrase la plus simple possible, c'est le choix du meilleur examen au meilleur moment dans l'ensemble des examens qui doivent se succéder pour mettre en évidence une maladie. Une stratégie thérapeutique, bien évidemment, là encore, même si les exemples que je vais vous montrer sont peut-être très intéressants, nous ne pouvons pas tout traiter. Donc, il faut véritablement intervenir au bon moment. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet palliatif de l'administration de strontium dans les métastases douloureuses du cancer de la prostate. Une équipe anglaise a montré il y a quelques mois que si on traitait de façon un peu plus précoce des patients avec ce type de produit, eh bien, on pouvait voir disparaître certaines métastases. Pour l'instant, c'est un espoir, ce n'est pas une certitude que nous pourrons véritablement traiter toutes les métastases des cancers prostatiques, mais pourquoi pas, il y a une voie indiscutablement à chercher. Nous ne sommes pas les seuls à faire du diagnostic, bien évidemment, ni même du diagnostic par l'imagerie. Donc, il faut une complémentarité entre les modalités et le choix de la technique s'impose par rapport à celle qui existe. Au milieu des scanners, des radios simples, de l'IRM, de l'échographie, la scintigraphie et la tomographie d'émission de positons à sa place indiscutablement, au moment, encore une fois, où c'est nécessaire. Et pour illustrer encore plus cette complémentarité, eh bien, voici un exemple de quelque chose qui devient presque courant, c'est-à-dire l'association d'un examen purement morphologique d'IRM, dans ce cas ici, au niveau d'une coupe de cerveau, de la scintigraphie qui va apporter l'information en termes de perfusion cérébrale et la fusion des deux images qui donc permet le diagnostic d'accident vasculaire cérébral temporal gauche avec une analyse très précise des sites qui sont mal perfusés ici. Je terminerai par une note d'espoir en termes de recherche. Quels sont les domaines ? Eh bien, la médecine nucléaire a un rôle important à jouer en santé publique, et ceci dans de très grandes pathologies. C'est un enjeu important pour le siècle qui vient, et je ne citerai ici que quelques exemples, il y en a une liste beaucoup, beaucoup plus longue. Le diabète. Le diabète, c'est une maladie que tout le monde connaît. C'est une maladie qui est, assez paradoxalement, diagnostiquée extrêmement tard dans son évolution. On sait pratiquement qu'actuellement, le diagnostic de diabète est porté après une dizaine d'années d'évolution, pendant lequel beaucoup de lésions, en particulier vasculaires, au niveau visuel, au niveau rénal, sont déjà constituées. Donc le fait de pouvoir mettre en évidence cette maladie, peut-être dans un premier temps seulement en recherchant d'abord les sujets à risque et en vérifiant qu'ils sont bien porteurs d'une potentialité de développement du diabète, pourrait permettre de les traiter plus précocement. La plaque d'athérome coronaire, c'est tout l'enjeu de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est la lésion qui va se produire quand une artère coronaire, une des artères nourricières du cœur, va se boucher. Eh bien, on peut faire une coronarographie qui va mettre en évidence ces plaques d'athérome qui bouchent les artères. Mais ça n'est pas pour autant que le rétrécissement est la certitude que l'accident que représente l'infarctus du myocarde va se poser à cet endroit-là. En fait, depuis quelques années, on sait que certaines plaques d'athérome sont dites actives, c'est-à-dire qu'il y a un processus de fabrication ou tout au moins d'accrochage d'un caillot sanguin qui va compliquer la situation et qui va donc être responsable de cet accident vasculaire cardiaque qu'est l'infarctus. Donc mettre en évidence les plaques d'athérome coronaire actives, ça c'est quelque chose que nous commençons à pouvoir faire. La maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, le diagnostic est fait par l'interrogatoire, par des tas de données cliniques. On n'a pas besoin de la médecine nucléaire vraiment pour faire le diagnostic d'Alzheimer, sauf à son stade très précoce. Or, la pharmacopée à l'heure actuelle, donc la production de médicaments, laisse espérer dans très peu de temps maintenant des médicaments actifs au stade initial de la maladie d'Alzheimer. Quand la maladie est constituée, déjà évoluée, malheureusement on est moins efficace. Donc si, avec la médecine nucléaire, on peut faire des diagnostics précoces de maladie d'Alzheimer, quand nous aurons les traitements, eh bien, nous pouvons espérer être actifs. La thérapie génique. Là, on est en marge de la médecine nucléaire en termes de diagnostic, même de traitement. En quoi est-ce que la thérapie génique est un défi pour la médecine nucléaire ? Eh bien, vous savez que la thérapie génique, c'est introduire dans un organisme des gènes modifiés pour remplacer ceux qui sont défectueux. L'objectif, il est simplement de savoir où vont ces gènes. On ne saura pas mettre en œuvre une thérapie génique si on ne sait pas comment se distribuent les gènes que l'on a introduits, les gènes modifiés que l'on a introduits dans l'organisme. Et pratiquement, seules des techniques d'émission de rayonnement, donc d'utilisation avec des radioéléments, pourront permettre de suivre exactement la distribution des gènes dans l'organisme et donc de vérifier l'efficacité de cette thérapie génique. Donc vous voyez, l'objectif est absolument colossal et encore une fois, ce ne sont que quelques exemples. En conclusion, je dirais que la médecine nucléaire, car c'est une unité, il n'y a que des services de la médecine nucléaire, donc le titre que l'on m'avait suggéré de médecine nucléaire, il n'était pas de moi au pluriel. En fait, je m'en suis servi pour vous montrer qu'il y avait une pluralité d'implications, mais une unité d'action. N'oubliez pas donc que la médecine nucléaire, c'est d'abord la spécificité fonctionnelle, c'est le suivi du fonctionnement de l'organisme, et nous pouvons suivre cette fonction sans la perturber, c'est-à-dire à un niveau physiologique. La médecine nucléaire est donc disponible, ceci dans une démarche très claire et raisonnée de stratégie diagnostique, et elle offre d'immenses potentialités dans les années à venir. Je vous remercie, et je voudrais remercier également ceux qui ont contribué à préparer cette conférence. Merci beaucoup.
Alors, tout de suite, une question en haut.
Qu'est-ce qui permet à un stade extrêmement précoce de diagnostiquer des métastases osseuses ? Est-ce la scintigraphie ou la TEP ? Et puisqu'il n'y en a que deux en France apparemment, quelle est la chance d'un malade suivi de bénéficier de l'une ou l'autre des techniques, et notamment la meilleure ?
Très bien. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Les métastases osseuses d'un cancer sont actuellement, pour la plupart du temps, diagnostiquées, mises en évidence précocement par la scintigraphie osseuse, je dirais conventionnelle. En revanche, quand il s'agit de métastases de tissu mou et non de tissu osseux, là, nous sommes un peu moins performants avec les techniques dites traditionnelles, classiques, par rapport à la tomographie d'émission de positons. La tomographie d'émission de positons, vous avez raison de dire, et je vous ai en quelque sorte un petit peu fourni l'objet de votre question, en disant que nous n'avons effectivement actuellement que deux machines en France, qui sont toutes les deux d'ailleurs à Paris, l'une au Val-de-Grâce et l'autre dans un hôpital de la science publique, l'hôpital Tenon. Il y a d'autres autorisations qui sont actuellement données, mais les machines ne sont pas encore en fonctionnement. Nous avons un retard indiscutable par rapport à nos voisins, par exemple les voisins allemands. Je n'ai pas de réponse complète à vous donner. Bien évidemment, en tant que médecin nucléaire, je souhaiterais que cette technique se développe, que nous ayons les moyens et l'autorisation essentiellement d'acheter ces machines. Il y a les moyens financiers, bien évidemment. Nous sommes dans une période où nous devons faire très attention aux dépenses de santé, mais c'est aussi un enjeu important que de mettre en évidence des affections quand elles doivent être mises en évidence. Donc je dirais que dans l'état actuel des choses, nous avons un sous-équipement en France pour cette technique. Certains malades ont pu bénéficier pendant quelques temps de la proximité de certains de nos voisins en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, qui ont beaucoup plus de machines de TEP que nous. Nous espérons que le retard sera vite comblé, que nous pourrons offrir un service tout à fait digne de notre pays dans ce domaine.
Merci. Je voulais vous demander, à savoir l'émission de radioactivité dans un organisme humain, est-ce qu'il y a effectivement des recherches qui sont faites dans le suivi pour détecter les modifications d'un métabolisme ou du comportement en général ?
Vous voulez dire si le fait d'avoir introduit de la radioactivité modifie le métabolisme de cet
organisme ? Oui.
Non, la réponse, tout au moins, je répondrai à deux niveaux, si vous voulez, c'est que soit la dose administrée, la quantité de produits administrés est très faible, et c'était dans le cadre d'une action diagnostique, et là, nous sommes certains qu'il n'y a pas de perturbation de cet organisme. Où l'administration du produit a été à visée thérapeutique, c'est-à-dire la radiothérapie interne, et dans ce cas, bien évidemment, nous avons modifié quelque chose, puisque c'était le but recherché. Mais chaque fois qu'il est question de diagnostic, d'investigation diagnostique, bien évidemment, la quantité de radioéléments administrés est bien en dessous du seuil qui introduirait la moindre perturbation.
Monsieur. Oui, bonjour. J'aimerais vous demander si les quelques 60 chambres mises à la disposition de la médecine nucléaire ne sont pas largement insuffisantes par rapport au nombre de patients dont l'état de santé nécessite l'intervention impérative de la médecine nucléaire. Merci.
Monsieur, c'est aussi, je dirais que je répondrai à peu près de la même façon que j'ai répondu tout à l'heure pour les tomographes à émission de positons, à savoir que nous souhaiterions effectivement l'ouverture d'un certain nombre de chambres supplémentaires. Nous avons actuellement en moyenne des délais de 3 mois pour pouvoir accepter des malades dans ces chambres, sachant que les traitements durent environ une semaine. C'est typiquement de 5 jours, en tout cas dans notre pratique. Entrée du patient le lundi, administration de la dose, vérification par scintigraphie de contrôle le vendredi et le malade repart pour le week-end. Et donc, nous acceptons en continu des malades chaque semaine. Effectivement, le nombre de 60 est probablement insuffisant par rapport aux besoins théoriques que nous avons recensés.
Je voulais savoir, au niveau des appareils de scintigraphie et leur localisation par rapport à la localisation des appareils à IRM, est-ce qu'il y en a dans les mêmes endroits, enfin dans les mêmes hôpitaux, les mêmes centres de traitement? Est-ce que c'est un problème culturel qui fait qu'on va faire appel à vous plutôt qu'à d'autres services pour faire des diagnostics? Comment ça se passe concrètement en fait, entre le moment où on suppose qu'il y a un problème et on va décider de faire appel à vous plutôt qu'à un autre service?
Bien. Alors, la répartition, elle est à peu près équivalente en termes de distribution sur la carte de France. Il y a pratiquement dans tous les CHU de la médecine nucléaire, il y a également de l'IRM pratiquement dans tous les CHU, je ne suis pas absolument sûr que ce soit le cas jusqu'au dernier, mais enfin pratiquement. Je dirais que globalement, les cartes sont très superposables. Alors, la deuxième partie de votre question, en termes de demande, ben, d'abord, en termes de stratégie diagnostique, nous avons développé avec nos collègues cliniciens des schémas diagnostiques, des schémas thérapeutiques, dans lesquels, à un moment donné, nous savons que la technique de médecine nucléaire est plus performante, plus sensible, plus spécifique qu'une autre technique. À l'inverse, à un autre moment, même de la même maladie, c'est une autre technique qui interviendrait. Donc c'est un dialogue permanent. Nous ne sommes pas isolés. Nous avons en permanence des contacts avec l'ensemble de nos collègues cliniciens, de toutes les spécialités médicales, puisque pratiquement il n'y a pas de domaine de la médecine qui ne puisse pas à un moment ou à un autre bénéficier de la médecine nucléaire, comme il pourrait bénéficier aussi des autres techniques d'imagerie. Mais donc c'est par échange, par enseignement mutuel que nous définissons et que nous raffinons régulièrement nos stratégies.
Pour revenir un peu au niveau des coûts, notamment l'allusion que vous avez fait au traitement beaucoup plus tôt du diabète, et est-ce qu'il y aurait, parce que par ailleurs au niveau du déficit de la sécurité sociale par exemple, il y a des questions de calcul par annualité et autres, alors est-ce que le fait par exemple d'anticiper des coûts et des peines pour le patient plus fortes 10 ans après peuvent être facilement mesurées? Mais je ne sais pas comment on traite le diabète par avance et combien ça coûte de le détecter 10 ans plus tôt.
Bon, écoutez, là, sur ce plan-là, je dirais que c'est plus quelqu'un probablement de santé publique ou d'épidémiologie qui pourrait répondre à votre question. Je dirais qu'il y a sûrement des mesures possibles du coût de revient d'une pathologie à ces différents stades d'évolution. Le prix, je répondrai un tout petit peu peut-être par une parabole, mais le prix des complications du diabète est vraiment très très lourd. La cécité, avec tous les handicaps que cela représente pour quelqu'un qui est atteint d'une rétinopathie diabétique, ça a un coût très fort pour la société. Des greffes rénales, des amputations, des soins répétés et souvent sur une très longue période, ça a aussi un coût. Vous dire si, une fois ces techniques mises au point, car nous en sommes encore, c'était dans l'aspect prospectif, hein, une fois ces choses mises au point, si nous pouvons effectivement détecter de façon très précoce et surtout si nous pouvons, enfin nous, si la médecine peut proposer un traitement précoce du diabète, Il y aura certainement des études épidémiologiques qui arriveront à prouver si c'est rentable ou pas. Mais la notion de coût d'un examen de médecine nucléaire ou d'autre, il doit toujours être comparé par rapport à ne pas faire cet examen. Un examen fut-il de 5 francs est trop cher s'il ne sert rigoureusement à rien. En revanche, un examen même cher doit être absolument fait s'il n'y a pas d'autre technique et s'il peut surtout éviter une complication.
Bonjour, je voulais vous poser une question sur les déchets au niveau de ce que vous donnez au corps. Vous nous avez dit que les déchets étaient traités directement dans les hôpitaux. Donc ça, c'est bon sur les déchets, je pense qu'ils sont, par rapport à ce qui est émis, tout ça. Mais au niveau d'un corps humain, par exemple, quelque chose se désexcite. Et qu'est-ce qu'il devient au niveau du corps ? Par exemple, je ne sais pas, vous avez parlé de thallium et autres. Il va se désexciter. Est-ce que s'il se désexcite en quelque chose de stable et de complètement neutre au niveau du corps, ou il peut donner quelque chose de nocif ou autre ?
Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. L'aspect traitement des déchets. Au niveau des déchets hospitaliers que nous avons, c'est-à-dire essentiellement les seringues, tout le matériel qui a servi à faire les injections, à s'occuper du patient, nous avons pour la plupart essentiellement deux façons de traiter. Nous pouvons soit faire appel à l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs, qui fait un enlèvement. Nous avons des fûts et nous stockons ce matériau et nous le faisons transporter ailleurs. Mais en fait, compte tenu des périodes extrêmement courtes des radioéléments que nous avons, le plus long est de 8 jours de période, c'est-à-dire qu'au bout de 8 jours, il n'y a plus que la moitié de la radioactivité. Ceci de façon spontanée, naturelle, il n'y a rien à faire pour ça, il y a juste à attendre. Nous préférons traiter nos déchets nous-mêmes, c'est-à-dire les stocker et attendre que la décroissance physique fasse son œuvre. Et nous pouvons, au moment en ayant attendu un temps suffisant, nous pouvons évacuer les déchets dans les déchets normaux à partir du moment où ils sont devenus non radioactifs parce qu'on a attendu suffisamment longtemps. Donc ça, c'est la procédure la plus fréquemment suivie, celle qui fait que tout se fait en vase clos à un coût extrêmement faible. Maintenant, pour ce qui est de l'organisme, la quasi-totalité des substances qui ont été administrées aux patients, que ce soit à titre diagnostique ou thérapeutique, sont éliminées par les voies naturelles. La voie urinaire représente 80 à 90% des formes d'élimination des produits avant qu'ils n'aient fait, enfin tout au moins pour certains des atomes, fait leur désexcitation. Et dans ce cas-là, la désexcitation, vous me posiez la question, va se produire dans les déchets, donc on va recueillir. Pourquoi est-ce qu'on demande aux patients qui ont des traitements en radiothérapie interne d'être hospitalisés pendant 5 jours ? Bien évidemment, en termes d'irradiation, ne pas irradier l'entourage, les gens qui sont autour de ce patient, mais ce n'est pas tellement ça, c'est surtout le fait que nous souhaitons recueillir la totalité des excrétats, urine, fesses, et les stocker dans des cuves de décroissance, de telle façon que nous ne rejetons pas à l'extérieur la radioactivité ainsi éliminée.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Oui.
Vous avez insisté sur l'innocuité de la méthode. Et à la limite, disons, si une molécule est détruite dans une seule cellule, c'est pas grave pour le bonhomme. Mais imaginons, est-ce qu'il y a une possibilité d'atteindre les cellules germinales, en particulier féminines, si, imaginons qu'un gène soit détruit dans une ovule, par exemple, est-ce qu'on a évalué le risque, ou est-ce que le risque existe et est-ce qu'il est évalué ? Merci.
Tout à fait. Alors, la réponse est oui, nous avons évalué ce risque. Premièrement, chaque fois qu'une nouvelle molécule est mise sur le marché, dans sa phase de recherche, on regarde sa distribution. Et si la distribution a comme conséquence une accumulation trop importante au niveau des glandes sexuelles, que ce soit les testicules ou que ce soit les ovaires, bien évidemment, soit le médicament ne sera pas commercialisé, soit des précautions particulières seront prises parce qu'on estimera quand même que le risque est moindre que le bénéfice attendu. Mais je voudrais juste peut-être vous éclairer un tout petit peu concernant, vous avez dit, si un gène, en fait, bon, disons, si un chromosome est atteint et est altéré par le rayonnement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, dans l'immense majorité des cas, surtout quand il s'agit d'une irradiation avant la conception ou dans les tout premiers jours de la conception, si la cellule germinale, si l'ovule, si le spermatozoïde ont été altérés, la nature est si bien faite que la grossesse ne se développera pas. Il n'y aura pas de nidation de l'œuf ainsi constitué. L'embryon ne pourra même pas commencer à se développer. C'est ce que nous appelons, de façon peut-être un peu brutale, la loi du tout ou rien. Soit la grossesse ne peut pas avoir lieu parce que l'altération est trop importante, soit au contraire, la grossesse se développe et à ce moment-là, tout va bien. Il n'y a pas de séquelles. C'est connu, c'est prouvé maintenant de façon absolue. Les irradiations des embryons et des fœtus commencent et sont très sensibles et très dommageables entre, globalement, la troisième semaine et le troisième mois. Là, il faut prendre énormément de précautions. C'est un risque particulier puisque c'est une période où la femme peut ne pas se savoir enceinte. D'où la nécessité, comme je l'ai répété tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire un interrogatoire précis, au besoin faire des dosages de recherche de grossesse si on a le moindre doute. C'est notre responsabilité médicale, sachez-le, de ne pas administrer de produits à une femme susceptible d'être enceinte. Mais en termes de modification du génome humain, il n'a pas été prouvé pour des irradiations avant la conception que quelques lésions que ce soit pouvaient survenir. Des lésions qui ont été décrites de l'effet des rayonnements sur les embryons étaient donc, par définition, des actions alors que l'embryon commençait à exister, mais pas avant sa conception.
Bien. Une question, monsieur ?
Oui, je voudrais vous poser une question à propos des déchets nucléaires aussi. En ce qui concerne les Allemands qui amènent leurs déchets nucléaires en Alsace. Et puis, il y a 10 ans, moi, j'étais au Moyen-Orient, je suis effaré, et un de mes confrères il s'est fait assassiner par une mafia italienne, je ne sais pas qui, parce qu'il a protesté contre les déchets nucléaires qui viennent de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, je ne sais pas où, dans les pays de Méditerranée, au Liban particulièrement, à Beyrouth. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution pour résoudre ces problèmes de déchets nucléaires hospitalières?
Attendez, une autre solution. En l'occurrence, je ne pense pas que ce soit un réel problème. La radioactivité a ceci de particulier que, naturellement, elle disparaît. Il faut attendre parfois très longtemps, et quand vous faites référence aux déchets nucléaires de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, etc., qui circulent, bon, je n'ai pas de compétences particulières pour vous parler de ça, mais il n'y a pas de commune mesure en termes de période, c'est-à-dire de durée de vie de ces produits. Dans un cas, nous faisons référence à des produits qui ont quelques heures, quelques jours de période. Il suffit d'attendre donc 10 fois la période pour que la radioactivité ait baissé d'un facteur 1000. Bien évidemment, si vous faites référence à des produits radioactifs dont la période est de 30 ans ou 300 000 ans, eh bien, si vous devez attendre 10 fois cette période, c'est beaucoup plus long. Mais gérer les déchets hospitaliers tels que nous le faisons, d'abord à l'agrément absolument de toutes les communautés internationales, il n'y a absolument aucun problème. Et très objectivement, ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où nous rejetons ces produits dans le cycle normal des déchets, il n'y a plus aucun danger pour qui que ce soit. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. C'est quelque chose de tout à fait évident, éprouvé.
La dernière question.
Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comme vous utilisez des produits radioactifs, ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui peut les élaborer. Donc, il doit y avoir des organismes spécialisés, le CEA ou autre. Quelle est l'origine de ces produits ou l'origine du traitement qui les rend radioactifs?
Tout Merci. À fait. Alors, la quasi-totalité des produits qui sont utilisés en médecine nucléaire à l'heure actuelle, ça n'était pas vrai il y a quelques années, mais maintenant sont tous de production de cyclotrons médicalisés, qui sont détenus par des sociétés, des laboratoires pharmaceutiques et radiopharmaceutiques. Il y a un de ces laboratoires en France, Vous avez cité le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Jusqu'à il y a quelques semaines, ce laboratoire dépendait du CEA. Le CEA a laissé partir ce laboratoire à bière pharmaceutique et c'est une firme allemande, européenne, qui l'a racheté. Il y a d'autres sociétés, il n'y en a pas énormément. Je dirais que sur l'Europe, il y a quatre producteurs, l'un est en Allemagne, l'autre en Hollande, l'autre en Angleterre, et distribuent et font venir, nous faisons venir ces produits au sein de l'Europe.
Merci beaucoup.